fêtons aujourd'hui les saints innocents. On peut constater que la première lecture est sans rapport avec le martyre des saints innocents. Et ça peut nous surprendre, parce que ce dont il va être question n'a effectivement rien à voir avec ce drame des saints innocents. Je vais y revenir. Et en fait, la lecture est en rapport avec la nativité. Nativité, il y a quelques jours, à travers cette lecture, Jean nous rappelle la cause de la venue de Jésus. Donc la première cause qui est, en fait, que nous trouvons à la fin du reste, c'est de détruire le péché, et non pas le pécheur. Dans la loi, il y avait jusque-là une identification du péché et du pécheur. Donc ceux qui étaient, prenons le cas de l'aveugle-né, par exemple en Jean 9, l'aveugle-né était considéré comme étant dans le péché depuis sa naissance. Donc, étant aveugle-né, il était nécessairement dans le péché. Donc il y avait une identification entre la défaillance humaine et le péché et le pécheur. Et Jésus vient détruire cela. En faisant quoi ? Ben, en prenant la place. C'est-à-dire que lui, il va s'identifier au péché, dira Paul. Voilà. Il va se faire... il va s'identifier au péché, oui. Je ne sais pas comment on peut dire ça autrement. La deuxième invitation, deuxième motif de la venue de Jésus, qui est mentionné en amont dans le texte, c'est de marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, ça veut dire marcher dans la vérité. Alors, marcher dans la vérité, c'est pas forcément, si je puis dire, ne pas commettre de péché. Mais c'est plutôt reconnaître, laisser la lumière montrer ce que nous faisons. Nous laisser éclairer. Et peut-être du coup pouvoir prendre conscience de ce que nous faisons de mal, d'inajusté, de franchement mal peut-être. Oui. Dans Jean, il est dit « Celui qui fait le bien vient à la lumière ». Et au fond, faire le bien, c'est reconnaître l'action de Dieu dans nos vies. Autrement dit, le drame du péché, ça n'est pas surtout de tomber dans le péché, mais c'est d'y rester. Et de s'identifier à ce péché avec, bon, par exemple, cette sentence assez connue, j'y arriverai jamais. Toujours ces mots, voilà. Et dans l'expression j'y arriverai jamais, il y a un petit élan d'orgueil qui dit je veux m'en sortir tout seul. Voilà. C'est humiliant, hein. Pas de problème là-dessus, c'est clair. Et alors le troisième état, c'est de vivre en communion les uns avec les autres. Vous voyez, il y a ces trois étapes. Être libéré du péché, parce que le péché est détruit et le pécheur est libéré. Marcher dans la lumière pour reconnaître que nous avions péché et que ça nous arrive encore. Et nous laisser illuminer pour nous corriger parfois pour nous laisser corriger, et dès lors, eh bien, être en communion les uns avec les autres, non pas parce que nous serions purs, mais parce que nous avons été pardonnés. En fait, on n'est pas pur, on est purifié. C'est-à-dire que quelqu'un nous purifie. Voilà. Et cette lecture, je pense, nous invite à réfléchir sur le sacrement de réconciliation, sur la confession. Je pense que c'est un bon jour pour aller se confesser aujourd'hui, voyez. Confesser nos péchés devant Dieu. Et qu'est-ce que c'est que, au fond, la confession? Eh bien, je pense que cette lecture l'illustre très très bien. La confession, ça consiste à venir déposer entre les mains d'un prêtre, donc devant Dieu, que figure la personne du prêtre, même si c'est toujours un pauvre homme le prêtre, hein, déposer tout ce qui en nous fait obstacle à Dieu. C'est ça le péché. Le péché, ça n'est pas d'avoir manqué à une règle. Avoir manqué à une règle, ça conduit à avoir un accident. Si vous grillez un stop, vous risquez de tuer quelqu'un et de vous tuer au passage. Il peut ne rien arriver, mais ça peut arriver aussi. Tuer ou handicapé à vie, enfin que sais-je. Oui. Donc ça, c'est une règle qu'on manque. Donc c'est pas le fait d'avoir manqué la règle, c'est la conséquence d'avoir manqué la règle. Et la conséquence, c'est qu'on met un obstacle dans la vie des autres. Et nos péchés mettent un obstacle dans la vie que Dieu veut mener avec nous. Donc déposer ce qui fait obstacle à Dieu, à sa grâce en nous. Donc en fait, la confession, ça consiste à dire au Seigneur, écoute, tout ce que j'ai fait pour refuser ta grâce, je le reconnais et je te demande de le détruire. Donc évidemment, la conséquence de la confession, c'est que la grâce peut reprendre toute la place en nous. Alors malheureusement, nous pouvons avoir contracté des habitudes. Et il ne suffit pas de se confesser pour que l'habitude disparaisse. Il y a un effort à faire. Là aussi, il s'agit de marcher dans la lumière et d'essayer de se corriger, non pas d'un coup, c'est assez rare, hein, ça peut arriver, mais souvent petit morceau par petit morceau. Voilà. Si vous avez l'habitude de manger une tablette de chocolat par jour, eh ben, peut-être vous pouvez enlever un carré ou une rangée pendant quelques jours. Puis la semaine d'après, une deuxième rangée. C'est drôle si vous voulez, mais il n'y a que comme ça que ça marche. Hein. Si vous voulez détordre un arbre qui est tordu, eh ben, vous mettez comment on appelle ça, une tige, enfin un tuteur. Et avec le temps, ce qui est tordu ne va pas se détordre. L'arbre va se contre-tordre et va pouvoir pousser droit. Voilà, il garde la cicatrice. Mais, voilà, il peut aller vers la lumière. Bon, tout ça, c'est une image. Donc, n'hésitez pas à aller vous confesser. Ça vous fera du bien et ça fera plaisir au bon Dieu parce qu'il pourra étendre son règne. Et c'est notre responsabilité. La paix dans le monde dépend de la conversion de chacun. Donc nous ne pouvons pas dire que nous travaillons à la paix dans le monde si nous demeurons dans notre péché. Je crois que c'est assez radical. Alors ensuite, nous arrivons à l'évangile. Vous allez voir qu'il y a un petit point commun quand même. Hein. Que j'ai trouvé en tout cas un point commun, même si c'est pas la fête, hein, effectivement. Donc, cette fête, cette triste fête du massacre des saints innocents. Alors, en fait, pourquoi est-ce que c'est une fête? Pas du tout parce que parce qu'il y a eu du sang, parce qu'ils ont été massacrés, parce que nous croyons qu'ils sont arrivés directement au ciel. Ils ont confessé dans leur sang et sans en avoir conscience la divinité de Jésus. Ils ont confessé la mission du Christ. Alors c'est tout à fait intéressant parce que ça nous parle du salut de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui sont massacrés par d'autres à cause de Dieu. Sans être au courant, quoi. Ce qu'on appellerait extrêmement vulgairement aujourd'hui des dégâts collatéraux. Ouais, bah les collatéraux, ils vont direct au ciel. Voilà, donc ça c'est très très important que nous ayons ça à l'esprit, parce que bah, il convient de garder le regard orienté dans la bonne direction. Donc il y a deux parties dans cet évangile. Il y a d'abord le songe et la fuite. Et là, on pourrait se dire, enfin Dieu aurait quand même pu éviter ça, quoi. Parce que voilà, alors il y a son fils qui arrive, donc lui, il le protège, et puis les autres, bah dommage. Hein. Vous voyez, on peut avoir ce raisonnement stupide, fallacieux, grossier, et qui témoigne du peu de connaissances, du peu de conscience que nous avons de l'action de Dieu, de qui est Dieu. On pense que Dieu est un magicien et que il peut contraindre tout être humain à faire ce qu'il veut. Et là, je vais avoir des propos un peu durs. Je crois que c'est le Dieu de l'islam, ça. Je crois que ça, c'est le Dieu de l'islam, avec des gens soumis. Voilà. Il n'y a pas de libre arbitre. En islam, vous ne le savez peut-être pas, les écoles calamiques, du calam donc, qui ont défendu l'idée d'un libre arbitre, ont toutes été massacrées, exterminées, et c'est terminé. Pas de libre arbitre, il n'y a pas de cause seconde en islam. Bien, donc je referme ce chapitre-là pour vous dire que la question reste en suspens. Alors c'est quoi ce Dieu? Je passe à la deuxième partie. Deuxième partie, c'est colère, sang, haine, massacre. C'est l'action d'un homme qui se met en colère parce qu'il a été, il juge avoir été trompé. Alors que lui-même avait trompé, puisqu'il avait dit au mage, dites-moi où il est, j'irai l'adorer. Non, non, en fait, il voulait pas aller l'adorer du tout, il voulait le zigouiller. Intention était mauvaise à la base. Hein. Et tout ça, mystérieusement, est l'accomplissement de prophéties, comme le dit l'Évangile. Donc la question qui peut se poser, c'est, était-ce évitable? Était-ce évitable? Je maintiens que ça n'était pas à Dieu de le faire éviter, parce que Dieu veut l'homme libre. Donc était-ce évitable? Alors c'est la question qu'il faut poser à Hérode. Si tu n'avais pas vécu dans la peur, Hérode, dans la crainte de perdre ton pouvoir, est-ce que tu aurais nourri cette inquiétude? Est-ce que tu te serais laissé aller à l'orgueil, à la jalousie, à la haine, à tant d'égoïsme? Et au fond, vous voyez, est-ce que Hérode, c'est pas un petit peu chacun de nous de temps en temps, quoi? Alors peut-être nous ne faisons pas massacrer les autres, ne faisons peut-être pas massacrer les innocents, mais ça vaut le coup de se poser la question quand même. Tout ça pour notre petit nombril, donc qui amène à une aversion, une invitation, une aversion du péché, une invitation à la conversion. Et donc on retombe une deuxième fois dans l'invitation à se confesser, à reconnaître à chaque fois que notre action nous détourne finalement du prochain. Donc oui, c'était évitable. Oui, le massacre des innocents est toujours évitable. Si les hommes renoncent à la haine, à accueillir l'humilité, le service, l'amour et la paix. Tout ça est évitable. Parce que Dieu veut une créature libre, ayant un libre arbitre. C'est une des très très grandes différences entre la doctrine catholique et la doctrine islamique. Cette liberté de l'homme qui peut recevoir la lumière pour chercher Dieu. Voilà. Donc, bien réfléchissons à tout ça, à toutes ces conséquences de nos colères, de notre haine dans la vie des autres. Encore une fois, on va peut-être pas jusqu'à les massacrer, mais peut-être qu'on leur fait plus de mal qu'on ne pense.